Je suis donc invité à vous parler à partir du thème de votre journée. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Un tel sujet pour 130 couples du diocèse qui se préparent à vivre le sacrement du mariage, c'est un très beau thème. Alors j'ai envie de te demander, as-tu déjà dit cela à ta fiancée ou à ton fiancé? C'est puissant. Lui as-tu dit les yeux dans les yeux et en gardant le silence? Y a-t-il quelque chose de plus puissant que cela dans ta vie? Je t'aime. Question peut-être encore plus difficile. As-tu réussi à accueillir cette parole de l'être aimé? Lui fais-tu confiance? Et peut-être te poser aussi cette question, qu'est-ce que cela produit en toi? Est-ce que cela a changé ton regard sur toi? Je vous dis ça avec une anecdote. J'ai un copain qui se trouvait un peu balourd, peu intéressant, peut-être comme beaucoup d'entre nous. Il est sorti avec une fille qui était pour lui vraiment une bombe. C'est vrai qu'elle était belle, belle jeune femme, très intelligente et tout, quoi. Et pendant 5 ans, il dit non mais c'est pas possible, c'est pas possible. Elle est trop bien pour moi. Il n'arrivait pas à comprendre que cette super fille était capable de l'aimer lui. Juste cette parole d'un je t'aime, si tu apprends à l'accueillir, peut transformer ta vie. Je suppose que parmi vous, certains sont ensemble depuis quelque temps déjà, voire longtemps apparemment. Alors ma question est, êtes-vous encore capable de vivre ces temps intenses entre vous? De vous le dire encore? De laisser du silence pour laisser résonner cette parole? La puissance d'une parole. Oui, bien sûr, malheureusement, parfois on est trompé par la parole d'un proche. Ça fait mal. Et alors, après, on termine avec la chanson, paroles et paroles et paroles, et on meurt. Tu vas prononcer une parole le jour de ton mariage, une parole qui t'engage. Une parole fondatrice. Alors là aussi, malheureusement, trop d'exemples autour de nous de personnes qui n'ont pas réussi à tenir cet engagement pour X raisons et on n'est vraiment pas là pour juger. Mais le risque, c'est de minimiser ton engagement. Quelle erreur. Si tu n'es pas prêt, dis non. Ce sera plus honnête que de faire semblant. Peut-être es-tu non-croyant et que la démarche a peu de sens pour toi. Et là, assez paradoxalement, tu peux vivre un vrai acte d'amour pour ta moitié qui est croyante. Et cela est très beau. C'est très honorable, c'est respectable. Mais donc, fondamentalement, dire oui, c'est t'ouvrir à ta propre confiance. Penses-tu être digne de cette confiance? Est-ce que tu vas faire confiance à ta propre parole? Est-ce que tu vas t'y engager? Alors ne répondez pas trop vite parce qu'il me semble qu'il faut toute une vie pour y répondre. je vous laisse un moment tranquille sur votre relation amoureuse. Venons plutôt découvrir qui est l'auteur de cette si forte parole. « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. » Ni plus ni moins que Dieu. Dieu nous parle. Donc Dieu te parle. Alors tout d'abord, pour ne pas parler chinois à tout le monde, y a-t-il des croyants dans la salle? Y a-t-il des chrétiens dans la salle? Pourquoi je vous dis cela? Tout d'abord, il faut savoir que nous vivons dans une société où la religion est taboue. Il ne faut donc pas parler de ses convictions, surtout pas religieuses. Et cela, chez les catholiques, on l'a tellement intégré. On nous a dit, il y a 200 ans en arrière, que la foi était quelque chose de privé. Et on l'a tellement intégré qu'on a fini par se priver de foi. Même entre cathos, nous avons parfois du mal à exprimer notre foi, à dire notre amour de Dieu, nous dire combien il nous ancre dans la vie, il nous donne sens. C'est un truc de fou. Pour bien faire comprendre l'importance de ma question, je vous note une petite anecdote. Je prépare un couple au mariage, c'est des vieux routards, lui il a plus d'une cinquantaine d'années, elle un peu moins. Lui il est croyant et elle vraiment, elle ne savait même pas que Dieu existait, alors donc elle était vraiment très 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 loin. Donc je discute plein de sujets de la vie ordinaire de couple, et à un moment, puisqu'il demande un mariage chrétien, à lui, je lui demande « Est-ce que tu pries ?» Et là, il me dit « Ah oui, tous les soirs, dans ma chambre, je prie, je prends un temps de prière. » Et alors là, je vois dans le regard de la femme, vraiment exorbité, et alors je lui mets des mots sur son attitude là, et... Je lui dis, toi, t'es en train de te demander combien vous êtes dans la chambre. Ah, c'est tout à fait ça, me dit-elle. Et de fait, elle dit, ah, ce soir, je vais regarder sous le lit. C'est quand même étonnant. Vous êtes prêt à donner votre intime intimité. Et vous n'êtes pas capable de vous dire que vous priez, que vous êtes croyant, que vous vous adressez au tout autre. Si tu viens te marier à l'église juste pour que ça fasse un peu moins minable qu'à la mairie, renonce à te marier à l'église. Ça va être un fiasco. Un jour, par téléphone, c'était le père du marié qui m'appelle. Il dit, voilà, est-ce que mon fils peut venir se marier à votre église? Ben, vous n'êtes pas de la paroisse, alors comment ça se fait, tout ça? Et en finale, il dit, oui, mais parce que votre église, il y a des belles marches devant, pour la photo, ça fait super. Mais réellement, il m'a fait comme ça. Mais du coup, tu ne vas même pas te respecter. Si c'est pour autre chose, alors on peut aller plus loin. C'était assez étonnant de vous voir arriver tout à l'heure, parce qu'on sentait bien que vous n'étiez pas très très à l'aise, que vous alliez vous dire, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont nous faire là toute la journée? On est obligé d'y aller pour se marier. Et on sentait qu'il y en a certains qui venaient en traînant les pieds. Mais voilà, c'était un beau moment que nous avons à passer ensemble. Venir réinterroger la relation que vous avez. Alors je vous propose de vous brancher quelque peu sur la prière. Pourquoi ça? Parce que c'est dans la prière qu'on entend Dieu parler. En fin de compte, la prière, c'est la relation entre Dieu et l'humain, l'humain et Dieu. Donc, lorsqu'on entend quelqu'un, il faut savoir qui est l'auteur. Alors, à ce qui paraît que certains ne sont pas croyants. Ils disent, moi je suis athée, je ne crois pas. En fin de compte, ce n'est pas qu'ils ne croient pas. Ils croient que Dieu n'existe pas. Mais ils n'ont pas plus de preuves que nous pour dire que Dieu existe ou n'existe pas. Il n'y a pas de preuves. Et c'est tant mieux. Parce qu'en fin de compte, Dieu, c'est une question d'expérience. Nous avons à expérimenter Dieu. Vous pensez ne pas le connaître. Je vous propose un cours de catéchèse en trois mots. Dès qu'on dit catéchèse, il y en a qui se crispent en disant « Oh là là, ça y est, il va nous sortir tout un tas de trucs là, qu'on va rien y comprendre. » Trois mots. S'il y a une chose à retenir de la foi chrétienne, même s'il y a plusieurs choses très très importantes, mais celle-ci est l'une des fondamentales. Dieu est amour. Rien à voir avec un vieux barbu au-dessus des nuages qui est en train de te fliquer. Ou qui t'enverrait peut-être des épreuves. Hein? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Dieu est amour. J'ai besoin de savoir une chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais aimé ? Bon, personne ne va lever la main, sinon il va se prendre une claque et il y en a deux qui vont partir. Vous avez déjà tous aimé. Alors, je rajoute le verset supplémentaire, c'est dans la lettre de Saint Jean. Dieu est amour. Qui aime connaît Dieu. Que c'est puissant. Tu as déjà fait l'expérience de Dieu. Sans le savoir, tu ne l'as pas nommé comme cela. Mais c'est intéressant que tu t'interroges, qu'est-ce que ça produit lorsque je suis amoureux ou amoureuse ? C'est puissant ça aussi. J'aime bien quand je fais parler les lycéens là-dessus, il y a toujours un ou une qui pourra là pour me dire « Ah, moi ça me fait des papillons dans le ventre ». Bon, ça veut strictement rien dire, mais on comprend tous ce que ça veut dire. Voilà, j'ai des papillons, puis je me sens heureux, puis je me sens léger, puis je vois que mon avenir se dégage complètement, il y a de la lumière, tout est beau. Parce que j'ai fait l'expérience de Dieu, Dieu est amour. Il y a une encyclique, c'est-à-dire un document important du pape Benoît XVI, Deus Caritas Est, Dieu est amour. Amour. Donc tu ne peux plus dire que Dieu n'existe pas. Ça fait partie de la folie de la foi des chrétiens. Et il faut faire attention parce que nous sommes dans une société qui rationalise tout, qui intellectualise, et on oublie d'écouter nos émotions, nos sentiments, notre ressenti. Il est hyper important pour découvrir le mystère de la vie. Cette parole, tu as des yeux, tu as du prix à mes yeux et je t'aime, nous vient donc de Dieu. Il nous faut avancer un peu plus. Et pour ceux qui ne sont pas croyants, mets-toi au moins en posture d'être en interrogation sur le mystère de la vie. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous trouver dans une grande foule ? Vous étiez avec quelqu'un, vous l'avez perdu, et puis vous ne savez plus, et vous cherchez, vous êtes hagard, vous vous sentez seul, perdu, et d'un seul coup, tu entends ton prénom. Tout de suite, tu te retournes, tu cherches, tu regardes, tu tends davantage l'oreille. Oh, c'est vraiment ton prénom, et tu as reconnu la voix. Tu entends ce qui se passe en toi à ce moment-là ? Tu t'apaises. Tu redeviens en sécurité parce que vite tu vas chercher et tu vas trouver du regard. Tu as trouvé celui qui te manquait. Et du coup, tu es reconnu par quelqu'un. Eh bien, assez étonnamment, toute la Bible nous laisse comprendre que Dieu se fait entendre le jour où on se reconnaît pauvre et perdu. Écoute en toi la source de Dieu. Nous sommes dans une société où il faut toujours être fort, il faut toujours être les premiers, il faut toujours vaincre, il faut être impeccable. Mais d'abord, ce n'est pas jouable, c'est hyper fatigant. On en arrive à des burn-out, avec des dépressions, avec des suicides, même chez les jeunes, parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'écouter cette parole, d'être aimé. Dieu se fait entendre particulièrement à ceux qui reconnaissent qu'ils sont fragiles, vulnérables, tout le contraire de notre société. Et pour cela, pour écouter Dieu, il te faut faire silence intérieurement. Régulièrement, tu peux reprendre cette parole, la laisser agir en toi. Quand vous êtes en difficulté à l'interne du couple, il faut revenir au déclic qui vous a fait impulser ce coup de foudre, cet amour si particulier. Juste une petite parenthèse, c'est un célibataire endurci qui vous parle. C'est parce que j'ai justement connecté cet amour infini de Dieu pour moi que j'ai décidé. J'étais avec une petite copine à l'époque. Bon, voilà, je l'ai laissé aller avec beaucoup de délicatesse, douceur et tout ça. Il n'y a pas de souci. Mais Dieu peut être tellement puissant. Il peut tellement nous combler. Et il n'y a pas besoin d'être célibataire pour vivre intensément Dieu. Les couples aussi, vous pouvez le vivre. En amoureux, vous savez bien ce que veut dire « je t'aime ». Mais je vous propose, je me permets de vous donner encore une autre anecdote. C'était aussi en préparation de mariage. C'était la troisième rencontre. Nous sommes bien en confiance, on a déjà abordé plein de sujets. Et à un moment, Caroline se met à pleurer, mais vraiment à pleurer, à grandes larmes. Et elle dit, tu sais, il m'a jamais dit je t'aime. Et lui, du tac au tac, de répondre, ben on a notre fierté quand même. Je vois que ça réagit, hein. Alors du coup, je l'ai titillé là-dessus, fortement. Et en finale, c'était quoi ? Son père était bûcheron, il faisait bosser chez lui, et chez les bûcherons, voilà, il y a une question, on ne dit pas nos sentiments, on ne dit pas nos émotions. Jamais il avait dit « je t'aime » à son fils, jamais il lui avait montré de la reconnaissance, jamais il avait dit qu'il était fier de lui. Ça ne se dit pas. C'est quand même étonnant, cette déviance d'une culture machiste qui empêche aux hommes de dire ce qu'ils ont au fond d'eux. C'est mortel. Je peux vous dire que le jour du mariage, alors que le père était là au premier rang, je lui ai fait cracher le morceau pour qu'il puisse dire qu'il était fier de son fils. Oui, ô combien cela est puissant que d'entendre et d'accueillir une telle parole. Et le Seigneur n'a pas que cela à te dire, il peut t'accompagner dans tous les domaines de ta vie. Es-tu prêt ou prête à lui consacrer un peu de ton temps? En fin de compte, il faut que tu comprennes que Dieu, c'est un mendiant. Un mendiant de l'amour. Un mendiant de ta relation. Il te cherche, il t'attend. Il y a un passage dans la Bible où il est dit « Je frappe à la porte de ton cœur. » Si quelqu'un ouvre, toi tu as ta liberté. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai et je demeurerai chez lui. Dieu veut faire de ton cœur sa demeure. Vas-tu lui laisser de la place? Est-ce que tu es prêt à donner, offrir quelques minutes par jour pour vivre un cœur à cœur avec lui? Mais pour cela, entre vous, ça demande d'avoir quelques codes. Est-ce que tu acceptes que ton conjoint ait besoin d'avoir ce temps d'intimité avec le Seigneur, qu'il a besoin de se retrouver seul, sans toi. On pourrait vite dire comme ça, intellectuellement parlant, que bah oui, c'est évident, il peut faire ce qu'il veut. Et combien j'ai de témoignages où dans des couples, c'est fort difficile. Je pense particulièrement à une femme qui me disait « À chaque fois que je veux prendre mon temps de prière dans la chambre, je me mets à l'écart, je me pose, je suis avec la parole de Dieu. Eh bien, c'est systématique. Il aura soit quelque chose à me demander, soit qu'il viendra chercher quelque chose dans la chambre. Et combien de fois il me dit « Mais qu'est-ce que tu fais encore là ? Puis, ah, de quoi tu as besoin ?» Et pourtant, ils sont tous les deux chrétiens. Lui, comme elle, tous les dimanches, ils sont à la messe. En fin de compte, il faut oser regarder une chose. C'est notre difficulté à justement ne pas être Dieu tout-puissant pour l'autre. Il faut que tu acceptes. Tu ne combleras pas totalement l'autre. Il faut que tu lui laisses cette liberté. Plutôt que de toujours lui poser « Mais où tu étais ? Avec qui tu étais ? Et qu'est-ce que tu faisais ?» Laissez la liberté chez l'autre. Ça peut vouloir dire aussi une autre chose. C'est la difficulté de te faire face. C'est difficile. Il est plus facile d'avoir toujours quelque chose à faire, d'être toujours occupé. Dans l'Évangile, on voit Jésus qui vient chez deux sœurs, Marthe et Marie. Marie écoute le Seigneur et Marthe, elle, est en train de préparer les affaires de la maison. Et à un moment, elle vient avec le reproche. « Oh, mais Seigneur, ne peux-tu pas dire à Marie qu'elle vient de m'aider ?» Et lui, de dire « Marthe, Marthe, arrête de t'affoler, là. Une seule est bien suffisante. Marie a choisi la meilleure place, elle ne lui sera pas enlevée. » Il y a Marthe et Marie en chacun d'entre nous. Est-ce que je laisse de la place à Marie ? Oui, trouver des tout petits codes. Certains vont dire, ben voilà, moi je mets une bougie. Quand tu vois que la bougie est allumée dans mon petit coin prière, tu viens pas me brancher. Tu diffères, tu attends. Tu évites de faire du bruit à côté. Tu mets pas la télévision. L'autre marche possible pour vivre cela en couple, c'est d'une prière commune. C'est quand même étonnant que parfois deux chrétiens font chacun leur prière de leur côté et ne sont pas capables de faire une prière commune. Alors bien sûr, chacun doit trouver son support le plus adapté. On n'est pas obligé d'avoir la même sensibilité. Je suppose que dans les premiers temps de votre rencontre, vous avez été mutuellement découvrir les lieux et les choses que l'autre aime. Soyons un peu clichés, mademoiselle, tu as sûrement été une fois ou l'autre à une course de moto ou de voiture, parce que lui, il en est super fan. Pour essayer de tenter de saisir de l'intérieur ce qui l'anime. Bon, je suis pas sûr que monsieur soit venu à un cours de cuisine. Excusez-moi d'être cliché. C'était juste pour blaguer. Mais c'est ainsi qu'on découvre l'autre. J'ai besoin de savoir ce qu'il aime, ce qu'il passionne. Eh bien, il en est de même pour la vie intérieure. Si vous êtes tous les deux des croyants, vous pouvez aussi avoir des sensibilités différentes, des manières différentes de prier. Et il y a une grande diversité là-dedans. Je vous en dis quelques-unes, mais ce n'est pas exhaustif. Ça peut être la méditation silencieuse, la louange, écouter des chants religieux, se mettre à l'écoute d'un passage biblique ou encore avoir un commentaire de la Bible, lire la vie d'un saint, être dans l'intercession ou avoir une dévotion via le chapelet ou autre prière litanique, participer à la messe, prendre une heure d'adoration devant le Saint-Sacrement, voyez, la liste peut être longue. Aujourd'hui, il y a des applications sur le téléphone qui sont très très bien faites là-dessus et qui vous nourrissent chaque jour. Chacun a son rythme. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la même sensibilité, mais c'est quand même très important de savoir ce que l'autre a besoin pour nourrir son être intérieur. C'est la base nécessaire pour vivre vraiment, pleinement, cette parole « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime ». Ça demande aussi une autre attitude très importante dans la vie du couple. Ne cherche pas à convaincre l'autre. Combien de fois il y a des conflits et des bisbilles dans les couples parce que tu voudrais que l'autre pense, croit, voit, saisisse comme toi. C'est terrible parce qu'en fin de compte, quand tu fais ça, quand tu veux convaincre l'autre, tu veux le réduire à toi. Et tu le fossilises, tu l'enfermes. Accepte d'être avec quelqu'un qui te reste au moins un peu en partie étrange. Je me méfie énormément de ceux ou celles qui disent « Oh, lui-là, je le connais par cœur. » C'est fini. Tu l'as fossilisé. C'est terminé. Il ne peut plus rien t'apprendre. Il ne peut plus te surprendre. Et tu l'enfermes. Accepte que l'autre ait toujours quelque chose de nouveau à te faire découvrir. J'ai eu la chance pendant 3 ans, en mission dans le Périgord, de participer à une équipe de la Société Saint-Vincent de Paul, une organisation qui a pour but principal d'être au service des laissés pour compte de la société, les isolés, les difficiles. Mais dans ce groupe-là, dans tous ces groupes qu'il y a à travers le monde, les temps de rencontre tous les 15 jours commencent par un temps de prière, un temps spirituel. Mais l'équipe de Rouffignac avait cela de particulier, elle a toujours d'ailleurs, elle est constituée de chrétiens, d'hindous, de bouddhistes et de je ne sais pas quoi, comme ils disent eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas rattachés à une religion, mais ça ne les empêche pas d'avoir une dimension spirituelle. Eh bien, bon, au début que j'étais là, je faisais mon temps de prière à partir de l'Évangile, et ensuite j'ai dit, ben, écoutez, nous sommes de confessions et de religions différentes, osons nous enrichir mutuellement les uns des autres. Et donc, à chacune des rencontres, il y avait l'écoute d'une tradition particulière. Personne ne s'est converti à l'autre, mais nous nous sommes tous enrichis parce qu'il y avait 2 choses très importantes. Je ne cherche pas à convaincre l'autre et nous avions suffisamment de respect les uns pour les autres pour ne pas faire cela. Et quelle richesse, quelle richesse! Il faut avoir assez d'amour les uns pour les autres pour nous intéresser à ce qui anime l'autre dans son chemin de foi. J'avance un peu sur ce mystère de la parole de Dieu qui nous dit son amour. Et le summum, le voilà, ici. C'est Dieu sur la croix. La folie de la foi des chrétiens, et d'ailleurs souvent ce sont des non-chrétiens qui le remarquent, nous avons un engin de torture pour dire notre religion, pour évoquer notre Dieu. Oui, parce qu'il nous dit, jusqu'à la mort, je vous dis que je vous aime. Et en plus, cet engin qui mène à la mort, c'est un engin de torture. Non seulement je veux que tu meures, mais avant je veux que tu souffres. Vous entendez le côté pervers de l'humain ? Je veux que tu souffres. On essaye de nous faire croire dans notre société que peace and love, tout va bien, cuicui les petits oiseaux. C'est faux. Il faut oser faire face à ce mystère de la souffrance. D'ailleurs, qui t'a déjà fait du mal, si ce n'est ce que tu aimes? Et à qui as-tu déjà fait du mal, si ce n'est à ce que tu aimes? Faut savoir y faire face à ça. Et quand on en prend conscience, faut savoir ouvrir un point particulier de l'amour qui est le pardon, la miséricorde. Oui, notre Dieu a accepté de venir mourir sur une croix par amour de l'humanité. C'est un passionné. Alors vous voyez ce que c'est que quelqu'un de passionné. Il suffit de voir un supporter d'un club de football, là. Il connaît tout, hein. Il connaît toute son équipe, il est capable d'aller à 3h du matin à un aéroport pour voir un avion qui se pose, et puis une espèce de silhouette en disant « Ah, c'est mon idole, c'est Mbappé, c'est Messi » ou je ne sais pas trop quoi. Non, nous n'en avons qu'un de Messi, c'est le Christ. Donc, être passionné, on voit bien ce que c'est. Mais cette croix, nous appelons ça aussi la passion du Seigneur. Il est passionné de l'humain jusqu'à en mourir. Mais assez étonnamment, passion a pour verbe pâtir. Pâtir veut dire souffrir. Au cœur même de ton amour, il peut y avoir de la souffrance. Et toute la question, c'est de savoir ne pas fuir, mais traverser ensemble ce temps de crise. Tout à l'heure, nous vous avons évoqué les équipes Notre-Dame. Alors, elles ont tout un tas de règles, tout un tas de choses à faire. Il y en a une particulière qui me plaît bien et qui peut largement vous servir. C'est le devoir de s'asseoir. C'est-à-dire qu'une fois par mois, l'homme et la femme se retrouvent sans les enfants, sans personne, sans aucun écran ni de téléphone, et ils font le point sur ce qu'ils vivent depuis un mois. Alors tant qu'elle parle, lui, il n'a pas le droit de réagir. Vous comprenez bien pourquoi. C'est dès qu'elle va évoquer quelque chose, il va vouloir se justifier. Et si tu te justifies, obligatoirement, tu vas te mettre en contre de l'autre. Et du coup, on n'a pas le temps d'écouter l'autre jusqu'au bout. Combien de fois on entend des gens qui disent « Ah, mais je sais ce que tu vas dire !» Et peut-être qu'elle a besoin de te le dire autrement. Si tu avais vraiment compris, elle n'aurait pas eu besoin de le répéter. Elle n'a pas été accueillie dans ce qu'elle avait à dire. Combien de fois on coupe la parole à l'autre? Donc, tant qu'elle parle, elle va évoquer tous les domaines de leur vie. Le monde professionnel, le monde peut-être associatif, amical, le voisinage, la gestion de la maison, l'éducation des enfants, l'intimité dans le couple, les projets, et ainsi de suite. Ensuite, elle va se taire, et c'est lui qui va parler, ou inversement, peu importe. Et le temps qu'il va parler, elle n'a pas le droit de parler non plus. Et une fois que tout est déballé sur la table, et alors quand on parle, il faut parler tout autant de ce qui va bien que de ce qui va mal. Il ne faut pas parler que des problèmes. Apprenez à vous réjouir de tout ce qui va bien dans votre couple. De vous en réjouir. C'est là qu'il y a de l'énergie, qu'il y a de la force. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir aussi repérer les petites avancées sur les sujets un peu plus sensibles, qui posent un petit peu problème. Et donc, une fois que tout est là, posé sur la table, qu'est-ce que nous en faisons? Alors, à ce moment-là, vous allez pouvoir porter ensemble votre avenir. Le Christ nous dira, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. L'amour, c'est savoir s'oublier pour laisser toute la place à l'autre. Alors, vas-tu suffisamment aimer l'autre pour oser t'oublier, au moins en partie, et laisser à l'autre la première place? demandons cette grâce à Dieu de savoir être accompagné, que dans votre couple vous soyez accompagné par cette présence de Dieu qui ne veut qu'une chose, votre bonheur, pour rayonner de son amour.